Tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous et ce soir, il y a du live. Alors bien sûr, on commence du côté de la régie avec Marion Guilbeault et Blic Bassi, notre invité, qui vérifie une fois encore les balances. Il était temps.
Hein, il était temps, Laurent. Oui, je suis avec Blic Bassi, avec des dreadlocks bicolores, super paire de lunettes, super collier, les Timberlands ouvertes, tranquille.
Il y a du stylisme.
Ouais, il y a du stylisme, il y a de la recherche là. Allez, on écoute tout de suite un bout des balances.
Est-ce qu'il y a un médium dans la voix? Est-ce qu'on peut baisser un médium?
Pourquoi il faudrait baisser un médium dans votre voix, Blic?
En fait, je pense qu'à force d'être sur scène tout le temps, je connais à peu près le son que j'aimerais entendre de ma voix dans mon retour.
D'accord. Et là, ça y est, on y est arrivé à baisser ce médium. Vous pensez que ça va être bien?
Parfait, tout simplement.
Allez, on teste, on y va.
Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé. Vous savez, c'est l'émission double effet qui se coule de la soirée. 18h sur France Inter en avant-première. Et puis bien sûr, 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, du live avec Blic Bassi pour son quatrième album. Le titre, c'est une date, 1958. C'est l'année de l'assassinat de Ruben Oumniobé, un héros de l'indépendance camerounaise. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. À ses côtés, Loup de l'âge, Volage dans Blanche comme neige. Le nouveau film d'Anne Fontaine, c'est une relecture libre et émancipée du Blanche-Neige des frères Grimm. On vous avait connu sombre dans Les Innocentes. On vous découvre solaire. Lou Delage, bonsoir.
Bonsoir.
Un algorithme, Marion Guilbeault, au programme?
Oui, un algorithme de cinéma, c'est normal parce que c'est celui de Lou Delage.
Et dans le Énervé la suite ce soir, un événement. Si je vous dis Winter is Coming, Benoît Lagane, vous me répondez quoi?
Game of Thrones, qui fait son grand retour pour les 8 derniers épisodes de la saga. Les 6 derniers, oui, on a cru qu'on en avait 8 et non, on n'en aura que 6.
Il faudrait que je m'y mette.
Oui, mais pour ceux
encore
qui ne comprennent rien.
Voilà.
Pour ceux qui n'y comprennent rien et pour les autres, on va faire le point sur la série dite de tous les records. Avec 4 invités, Ava Cohen qui décode Game of Thrones dans un livre, Cédric Melon qui critique les séries dans Télécable Satellite Hebdo, Frédéric Sigrist qui décrypte les blockbusters et qui s'apprête sur France Inter à passer une nuit Game of Thrones dimanche, et puis Marie Turcan, spécialiste de séries et de numérique, et il en faut bien 2 spécialisations pour pouvoir parler de Game of Thrones.
Et marquez quoi sur votre t-shirt?
L'homme des bois, ça c'est mon côté petite maison dans la prairie.
Peut-être. Et aussi Blanche-Neige, vous essayez de manger à tous les râteliers, c'est pas possible. Le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on commence en live tout de suite avec Blic Bassi, Marion Guilbeault.
On le voit, hein, on l'entend, Laurent, de plus en plus, le temps est aux hommages, à la justice, à la réparation. Après Mélissa Lavaux, ses chants de résistance haïtiens, le blues créole de Delgrès et du nom du militant indépendantiste guadeloupéen, et bien voilà, c'est le Camerounais Blic Bassi qui convoque à son tour Ruben Oumniobé, symbole de la résistance anticolonialiste dans son nouvel album 1958. C'est une quête intime du folk contemporain, un blues sophistiqué, un son très pur, très dépouillé qui fait office de langue commune dans un pays, le Cameroun, qui en compte plus de 200. Un disque africain atypique parce que pas de percussion, pas de batterie. L'Afrique d'aujourd'hui, de demain, on en parle avec lui dans quelques minutes, juste après son premier titre en live. C'est à vous, Blic Bassi.
Wom babi kolol, babi kos babi pou pous fo. Babi tem babi pel, babel. Wom babi kolos, babi kan babi king is fo. Babi tar babi tem lingen. Nyo kini che long imporol. Kini choli yomatai, yung kini sros long imporola. Mbay di bi soros, di bi lor di bi kwez niyo, di bi lor di bi sem niyo. Mbay di bi poros, di bi lor di bi lem niyo. Divi lor, divi soros miyo. Nyukini che longi porol. Nyukini chol niyo matai. Nyukini sros longi porola. Nyukini che longi porol. Nyukini chol niyo matai.
Bassi Mpodol, ça veut dire celui qui porte la parole des siens en langue bassa. Le temps pour Big Bassi de venir nous rejoindre. Son album 1958 est sorti le 8 mars dernier chez No Formato ou Tard. Il sera en concert 11 avril à Senon et à La Cigale à Paris le 15 avril. C'est quoi cette toute petite guitare que vous avez, Big Bassi? Toute petite guitare rose.
Toute rose.
Elle est mignonne.
Hein. Alors, en fait, c'est une guitare que j'ai fait faire... Parce que j'avais besoin de certaines sonorités spéciales, mais également parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que musiciens, on souffre tellement pendant les voyages que c'est compliqué. Nos guitares, on veut les mettre en soute, mais on veut les garder avec nous parce que ce sont nos bébés. Et donc, quand elle est petite comme ça, je pense qu'en général, dans les avions, ils font moins...
Petite et rose comme un bébé, donc ça doit passer comme ça. De quoi parle la chanson qu'on vient d'entendre?
En fait, dans cette chanson, je parle de la responsabilité, parce que tout l'album est dédié à Omiobe, et dans cette chanson spécialement.
Qui c'est? Donc, c'est un dirigeant politique, défenseur de l'indépendance.
Absolument. En fait, c'était quelqu'un qui se battait pour les valeurs universelles, et donc, notamment, l'indépendance. À partir du moment où on se bat pour les valeurs universelles, l'indépendance est tout simplement une étape normale. Et donc, ce personnage a été tué en 1958, et ma crise identitaire en tant que Camerounais m'a amené à savoir, parce que je me pose la question de savoir qui est-ce que je suis. Je vis dans un pays où les gens sont complètement atteints du mimétisme, de pathologie de mimétisme, on veut ressembler aux gens qui vivent en Occident. Et donc, toute cette crise-là m'a amené à tout simplement poser la question et de savoir qui est-ce que j'étais réellement. Et ça m'a amené tout simplement à repartir dans les archives et à rencontrer Omiobe. Donc, dans cette chanson, je parle du travail et du fait que Omiobe a décidé de donner sa vie pour que nous puissions être là et que nous avons une part de responsabilité, nous, en tant que Camerounais aussi. Qu'est-ce que nous faisons de cet héritage?
On va revenir sur cette histoire, sur ce passé. Pourquoi fallait-il avoir deux micros pour cette chanson? Qu'est-ce que vous racontez à un micro et puis à l'autre?
Mais en fait, le deuxième micro me permet tout simplement d'avoir des harmonies, donc plusieurs voix harmonisées. Mais aussi, ce micro me rappelle aussi les chants de chorale que nous avions lorsque moi je suis né dans cette ambiance ou pendant le chant, pendant les périodes de chant, on allait travailler ensemble en chantant ensemble. Et donc, j'aime bien donner vie à chacun de mes instruments et ce micro-là. Et tout simplement, cette chorale est aussi qui rappelle la solidarité et le fait du fait que nous sommes tout simplement tant qu'humains faits pour être ensemble.
Big Bassi, je vous présente Lou Delage, qui est l'autre invité de l'émission. Lou Delage, vous chantez aussi? Comédienne, un peu danseuse, chanteuse?
Non, pas du tout.
Rien du tout. Non. Avec cette voix-là, avec cette voix grave
Mais écoutez, j'ai voulu faire de la musique petite, on m'a dit que je chantais faux et que je ne pourrais jamais rien faire. Et je l'ai bêtement cru.
Mais pour le théâtre, pour la comédie, on vous disait que vous étiez douée?
Ah non, mais ça, je m'en foutais de la vie des autres.
Ça, vous saviez que, que c'était bon
ça,
pour vous?
Ça, je voulais le faire.
Parce que ça a commencé tôt, c'est ça?
Ouais, alors, pendant l'enfance, ouais, vers 5-6 ans, j'ai voulu faire ça. Pourquoi, je ne sais pas.
Vous aviez vu, je sais pas moi, une pièce, vous aviez vu une actrice, un acteur?
J'ai pas de souvenir, enfin j'ai pas le souvenir d'avoir voulu faire autre chose dans ma vie. Mais c'est ma maman qui me raconte qu'en sortant d'une pièce de théâtre, je lui ai dit, bah, c'est ça que je ferai quand je serai grande. Et j'ai jamais lâché. Mais alors, elle comme moi, on ne sait plus ce qu'était cette pièce de théâtre. Et surtout, c'est une professeure de théâtre après qui a rendu mon fantasme réel de ce que je m'imaginais du théâtre. Elle en a fait un objet concret qui m'a plu.
La musique, vous, ça a commencé à partir de quel âge, Big Bassi?
Très tôt, parce que mon père avait une église. Il avait conçu une église pour essayer d'urbaniser le petit village qui lui appartenait. Et comme nous étions 21 enfants, on était obligés de chanter tous les dimanches pour que les clients, en fait, les fidèles puissent venir.
Non, vous avez dit les clients!
Pour que les fidèles puissent venir tous les dimanches. Et c'est comme ça que très tôt, à 3 ans, j'ai commencé à chanter.
Vous êtes découvert animiste, Big Bassi, mais moi j'ai lu que vous aviez changé 7 fois de religion, c'est ça? Vous avez été baptisé autant de fois, même témoin de Jéhovah, baptiste.
Vous avez été témoin de Jéhovah?
Mais qu'est-ce que c'est?
Vous êtes venu sonner chez moi?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
En fait, mon père, pour essayer
de faire venir des clients,
changer de religion.
Donc, au départ, on est catholique et ouais. Il se prend la tête, fait venir un prêtre au village. Au bout d'un an, il se prend la tête sur une question d'argent avec le prêtre. Il dit, il le chasse. Et d'ailleurs, nous ne sommes même plus catholiques. Désormais, nous sommes protestants. Il fait venir un pasteur qui nous baptise. Mm-hmm. On devient protestant. Ouais. Au bout d'un an et demi, il se prend la tête avec le pasteur. Il dit, d'ailleurs, on n'est même plus protestant, on est baptiste. Il fait venir un pasteur de l'église baptiste qui nous baptise. On devient un baptiste. Ensuite, témoin de Jéhovah. Et 7 fois de suite, on a changé d'église.
Et aujourd'hui, vous êtes quoi?
Maintenant, je crois en la nature. Quoi.
Plus simplement. Ouais.
J'imagine que c'est beaucoup moins compliqué pour vous. Je vois l'autre de l'âge complètement hilar.
C'est génial.
En disant que j'ai trouvé mon maître dans la complication. Vous, le théâtre, ça a été... Vous n'êtes pas du tout né à Paris, vous étiez du côté
Non, moi je suis née à Bordeaux.
À Bordeaux. Mmh. Donc le théâtre, il a fallu prendre la route de Paris pour pouvoir en faire véritablement sa profession, ou ça a pu commencer avant, en fait?
Pour en vivre, oui. Pour manger grâce à ça, oui. Mais en faire, non, il n'y a pas besoin de Paris pour faire du théâtre. On peut en faire partout. J'ai d'ailleurs commencé à la campagne, en Charente-Maritime, perdu au milieu des champs, avec une preuve, un petit cours de théâtre comme ça. Et c'est là que j'ai aimé ça. Mais après, oui.
À Paris, vous aviez quel prof pour que ça ait pris cette dimension-là?
Ça, c'était la prof que j'ai rencontrée quand j'avais 10 ans, qui était une... fan du Théâtre du Soleil, d'Ariane Mouchkine,
ah oui,
de Colbert, tout ça, donc qui nous inculquait tout cet univers-là. Et non, après, en arrivant à Paris, j'ai fait une école qui s'appelle Claude Mathieu. Mais...
Classique.
Classique, bien. Mais très bien.
Ouais, mais très bien. Vous êtes aujourd'hui au centre du film Blanche comme neige. C'est une relecture sensuelle du conte des frères Grimm. Vous êtes au centre de Cet homme, un film d'émancipation féminine. Une jeune femme qui se construit dans le plaisir. Ça fait plutôt du bien, et après des films plutôt sombres, auxquels vous avez abonné votre voix, j'imagine. Vous pensez que c'est ça?
Oh là là, j'en ai aucune idée. Oh, je pense pas, parce que je pense qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en compte pour faire les choses. Mais oui, c'est vrai que j'étais contente de pouvoir partir sur quelque chose de plus léger, de plus solaire, après avoir raconté des histoires surtout tristes. Parce que mine de rien, quand on réouvre les tiroirs du chagrin ou de la souffrance ou de la douleur, ça a aussi un impact sur nous. Donc pouvoir ouvrir le rire... C'est aussi agréable.
Oui, parce que c'est une comédie, on va dire, joyeusement sensuelle, pas du
oui.
tout.
Oui.
Très joyeusement
ça
sensuelle.
Ça reste pudique.
Vous avez eu peur, à un moment donné, d'être cantonné au drame ou au rôle grave, nous de
non.
l'âge?
Non, parce que c'est...
D'abord,
j'ai
parce
pas
que
fait
vous êtes toute
ça.
Jeune. Ouais.
Déjà, en plus...
Et c'est ceux qui ont marqué véritablement.
Et c'est ceux que les gens ont le plus vu. Donc, du coup, on a l'impression que j'ai fait que ça. Mais en réalité, j'ai fait d'autres choses. Et puis, je fais du théâtre à côté, qui permet aussi d'explorer... différents mondes.
On va revenir sur votre parcours et sur celui de Big Bassi dans quelques instants. On vous a demandé à chacun des sons pour faire plus amplement connaissance. De la musique pour vous, Lou Delage.
Je t'aime et je crains de m'égarer. Et je sème des grains de pavots sur les pavés de mon amour. Tu sais, ces photos de la vie.
Alors, c'est pour la chanson, c'est pour le chanteur, c'est pour l'époque.
C'est un tout, et c'est parce que j'ai grandi aussi en écoutant beaucoup Gainsbourg, parce que mes parents adoraient. Donc, on écoute les musiques que nos parents écoutent quand on est petit. Et donc, voilà, j'ai baigné là-dedans. Donc,
vous connaissez tout le répertoire de Gainsbourg ?
Oh, je pense que j'en connais quand même pas mal. Je pourrais pas tout vous citer.
Non, mais vous inquiétez pas. Avec des périodes que vous aimez moins que d'autres, la dernière période, vous avez aimé ?
Non, moi j'avoue que là-dessus, j'ai été complètement en accord avec mes parents. Il y a des choses qu'on prend d'eux, il y a des choses qu'on rejette. Mais ça, je l'ai accepté. Non, je trouve qu'il a fait tellement de jolies choses.
Un son, on va dire, nature et découverte pour vous, Lick Bassi. Oui.
Non, mais ça m'envoie tellement en mon enfance. Quoi. J'ai passé pas mal d'années au village parce que mon père voulait me redresser. Il voulait que j'apprenne à vivre comme si le monde repartait de zéro. Et donc, il m'a envoyé chez un oncle qui, mon petit frère et moi, vraiment nous a élevés à la dure. Et je dis mille fois merci parce que il m'a rapproché de la nature et il m'a fait comprendre que nous étions tout simplement un élément de la nature comme tous les autres. Et nos journées commençaient par ça, quoi.
Votre père voulait vous redresser?
Ouais,
flanchier.
Ouais, il voulait qu'on moi, jusqu'à mes 21 ans, les vacances étaient partir au village, faire un champ d'arachide, un champ de plantain pour les garçons de 5000 m2, pour les filles, un champ d'arachide de 3000 m2. Et parce qu'il avait beaucoup de moyens, mais il tenait quand même à ce qu'on vive comme si le monde, comme il aimait dire, le monde repartait de zéro. Et voilà, aujourd'hui, je dis, à l'époque, on le détestait, mais je dis mille fois merci aujourd'hui parce que cela m'a vraiment permis de pouvoir, je pense, m'en sortir quel que soit l'endroit où je peux vivre aujourd'hui.
Rien.
Et vous avez aussi appris à jouer de la musique en même temps que les activités agricoles. C'est là-bas, dans ce village, que c'est venu.
Absolument, c'est là-bas où j'ai rencontré la première fois la guitare parce que chez l'oncle où j'étais, qui ne rigolait, qui ne souriait jamais et qui, pour lui... Et pour cet oncle-là, en fait, lorsqu'il rentrait des champs, par exemple, tout le monde s'occupait parce que pour lui, il n'était pas normal qu'on soit assis à ne rien faire. Et la seule fois que je l'ai vu sourire, c'est lorsque un guitariste qu'on appelait Molilon, qui faisait le tour des villages, s'était arrêté dans notre village. Et un soir, comme il n'y avait jamais rien dans ce village, donc il prend sa guitare, il se met à jouer. Et c'est la première fois que j'ai vu mon oncle sourire et je me suis dit, il me faut de cet instrument pour essayer de le séduire. Quoi.
Pourquoi les filles, c'était les champs d'arachide?
Parce que en général les mamans, parce que les travaux étaient complètement séparés,
ouais,
les garçons
j'ai bien compris ça, ouais.
Les plantains et les femmes faisaient les arachides. Je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça et nous pareil, les filles travaillaient avec les mamans dans les champs d'à côté et nous on était avec le papa dans l'autre champ. Quoi.
Un son très classique pour vous, Lou Delage. Musique de ballet, la Bayadère.
Mais c'est ça, parce que j'ai fait beaucoup de danse. Donc la danse permet de découvrir beaucoup de musique classique, mine de rien, sans savoir ce qu'on écoute toujours, parce qu'on ne sait pas toujours sur quoi on apprend à danser. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, le premier orchestre que j'ai pu voir aussi, c'était à travers de la danse. C'est de la danse qui m'a fait découvrir aussi tout ça. Et il y a une chorégraphie particulièrement de cet opéra, de ce ballet. Qu'on travaillait beaucoup et qui est très compliquée mais qui est très belle.
C'est laquelle ? C'est quel moment ?
C'est un solo de...
Parce que la Bayadère, c'est très connu aussi pour une longue suite à un moment donné sur
voilà.
L'arrivée de presque de toute la compagnie.
Oui, mais non.
Mais c'est pas celle-là. C'est... Non, vous étiez...
Là, donc, classique, on est très seul et on est très individualiste hein, quand on apprend.
Vous avez fait ça longtemps ?
J'ai fait ça en classe aménagée pendant ma scolarité. Mais j'ai arrêté en arrivant à Paris.
On vous a dit que c'était pas pour vous non plus ?
Non, ça c'est moi, j'ai jamais voulu être danseuse. J'ai toujours su que j'en ferais pas ma vie, mais par contre que ça m'a beaucoup construite, je crois.
Ah,
ça
et puis on peut même structuré. Le retrouver justement dans votre rapport au corps, encore aujourd'hui au cinéma.
Ben voilà, c'est toujours...
C'est toujours ça de gagner.
C'est toujours ça de gagner, et puis j'aimais ça. Mais j'ai jamais voulu avoir la vie d'une danseuse, parce que je trouvais ça trop dur, comme fille. Je trouve qu'il fallait se détacher de trop de plaisir... De plaisir trop important de cette vie. Donc, non.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Si je voulais être plus belle. Sur la photo de moi.
change.
Regarde-les, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi.
En héroïne ou en blessé de guerre, cette vie que j'habite parfois me dépasse, parfois est trop petite. Peur que ma chance me quitte, je cours partout, je m'ennuie vite.
Clara Luciani, nue, c'est le titre sur France Inter, et sur la scène de son premier Olympia le 12 avril, ce sera au printemps de Bourges, le 19 avril à Europavox, à Clermont-Ferrand le 29 juin et à Beauregard à Caen le 6 juillet prochain.
Claire, t'es toujours d'accord pour aujourd'hui dans ma chambre? 20 minutes, hein, pas plus.
Le nouveau rendez-vous?
Vincent veut me faire écouter une suite de Bach.
Dans sa chambre? 20 minutes?
Sam.
Quoi?
Laurent Goumard.
Vous êtes pas en train de vous foutre de ma gueule, là, tous les deux, là, avec votre suite de bac? Hein? Arrête de rire, s'il te plaît. Parle-moi franchement. Dis-moi les choses.
C'est quoi, franchement? Tu sais quoi? Tu nous emmerdes tous avec tes délires.
Ça va?
Mais vous affolez tout le monde. Lou Delage dans Blanche comme neige, le nouveau film d'Anne Fontaine sorti en salle demain. Avec Anne Fontaine, c'est votre deuxième film. La composition était plus sombre et plus sombre dans Les Innocentes. Vous nous rappelez le rôle que vous aviez? Pour qu'on mesure l'écart.
Les Innocentes, c'était une jeune médecin pendant la Seconde Guerre mondiale qui travaillait à la Croix-Rouge et qui allait aider des bonnes sœurs qui avaient été violées par des soldats soviétiques, et elle allait essayer de gérer tout ça.
Cette fois, c'est le portrait d'une jeune femme qui va s'émanciper. C'est une relecture libre et libertine de Blanche-Neige. Vous êtes Claire, orpheline. La mère est morte dans un accident de voiture. Pas de famille, si ce n'est une belle-mère, Isabelle Huppert. Bien trop flatteuse pour être honnête. Bande annonce.
Tu es comme ma fille. Tu es jeune, tu es belle. Moi, je n'avais qu'un amour et tu me l'as pris.
Il faut qu'elle disparaisse.
Dieu du ciel, une apparition.
Tu calmes, Charles, tu calmes.
Vous savez ce que c'est que le coup de foudre?
Vous êtes rentré par où?
Je sais pas.
Ah bah j'aime ça, moi. Je pense que j'aime les gens qui savent pas, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait tout avec Google.
Vous savez pas qui je suis.
Vous avez quelque chose. Une aura.
Avant je savais même pas que j'avais des désirs, et maintenant j'ai envie de les vivre. C'est mal.
Way to burn.
Et ces désirs, vous allez les vivre, mais loin de votre belle-mère qui a mis votre tête à prix. Vous vous êtes réfugié dans une grande maison en forêt tenue par des jumeaux. Il y a là aussi un musicien totalement dépressif et hypochondriaque. Il y a un village pas loin où vous allez rencontrer d'autres hommes. Au total, ils sont 7, comme les 7 nains, mais ils ne sont pas nains du tout. Un libraire libidineux, un vétérinaire maladivement jaloux, un puceau qui fait des arts martiaux, un curé. Et le film raconte la naissance de vos désirs, l'appel de la sensualité, une émancipation joyeusement sensuelle et sexuelle. Comment Anne Fontaine vous a présenté le rôle au départ? Elle vous a dit que ce serait une relecture de Blanche-Neige?
Elle m'a dit, lis le scénario, on en parle après.
Elle est toujours très cash. C'est vrai, elle est toujours très cash.
Ah, hein. Bah oui, mais ça qui est génial avec elle, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien qui est un peu sournois ou amené par derrière. Non, non, non. Tout est très franc et très clair.
Elle vous a parlé de son propre parcours de danseuse, mannequin, d'hôtesse et d'actrice. Vous avez échangé là-dessus, ouais?
Bah oui, maintenant, quand même, je commence à connaître cette femme. Donc à connaître aussi voilà ce pourquoi elle en est arrivée là.
Et à traiter de cette émancipation féminine et du rapport au plaisir, au désir dans nombre des films. Hein. Il y avait Nathalie, il y avait Nettoyage à sec, même dans Les Innocentes, il y a ça, même sous un courant beaucoup plus trouble.
Bah oui, mais je sais plus, une fois j'avais lu quelqu'un qui disait mais on raconte tout le temps la même chose, parce que finalement on cherche à raconter, à se rencontrer aussi, je pense, à travers ce qu'on raconte et à se comprendre. Donc, on retrouve beaucoup aussi de qui est Anne dans ce personnage.
Tous ces films, dans ce personnage de femme libre et émancipée et sensuelle. Elle vous a montré, je sais, un film qui s'appelle « De l'eau tiède sous un pont rouge ». C'est un film érotique japonais. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Exactement. Mais en réalité, elle m'a donné le DVD et elle m'a dit « Non, en fait, ne le regarde pas ».
Et vous l'avez regardé?
Et du coup, je ne l'ai pas regardé.
Ah, tu parles, elle obéit, mais c'est pas possible.
Vous avez regardé la pochette?
Moi, je suis très obéissante.
C'est vrai?
Ouais. Il faut choisir les moments où on obéit et les moments où on désobéit. Du coup, je l'ai regardé après.
Et alors, ça raconte quoi? Vous avez compris pourquoi vous voulez que vous voyez, puis que vous ne voyez pas ce film?
Elle me l'avait déjà dit ça, parce qu'elle m'avait dit j'ai envie qu'il y ait un rapport déjà à la sensualité, à la sexualité un peu japonais. Mais alors voilà, c'est les mots de Anne. Hein, et pour ce qu'elle me dit, j'aime ce côté très neutre et très pur qu'ils peuvent avoir, où c'est pas surexpressif, et à la fois, c'est pas du tout réaliste. Elle me dit, on est dans un conte, donc je cherche pas quelque chose de réaliste. Mais après, ça n'a quand même rien à voir. On n'est pas du tout dans le même film.
Donc... Je peux imaginer. Ouais. On peut vraiment imaginer. C'est pas du tout un film érotique d'ailleurs. J'ai vu ça, un conte érotique, pas du tout. C'est un conte sensuel, un appel à la sensualité. Premier film de cet ordre-là pour vous. Il y a des choses que vous vouliez éviter, des choses que vous aviez appréhendées?
Par rapport à ce rôle?
Ouais.
Non, absolument rien. Parce que je pense que si on prend des rôles en fonction aussi de comment on grandit et d'où on en est soi-même, par rapport à même à l'acceptation qu'on a de nous-mêmes. Et puis, je trouve qu'à un moment, tout ça est tellement peu de choses. Montrer un corps, c'est tellement peu de choses, c'est tellement naturel. Donc, même ça m'est même assez bien avec soi que d'aller raconter une femme qui s'accepte, qui s'assume et qui arrête de se regarder à travers ses yeux, mais qui prend plus le temps d'observer le monde. Et finalement, elle en est d'autant plus heureuse.
Plusieurs hommes, ça veut dire qu'il y a donc plusieurs expériences sexuelles. Et donc
pas que sexuelles. Hein,
pas que sexuelles. Non. Non, pas que sexuelles, parce qu'avec le curé...
Vraiment, on dirait vraiment que c'est un film où je fais l'amour tout le temps.
Non, en revanche, il y a plusieurs scènes d'amour, on va dire, différentes. Quelle a été la plus joyeuse à faire pour vous?
Ça, c'est compliqué, parce que j'ai tourné avec des fous. J'ai tourné avec des gens qui sont...
Bona Poulvorde, Vincent McCain...
Jonathan Cohen. Pablo Poli aussi. Du coup, chaque scène m'a amené dans le rire. Même parce qu'avec Jonathan Cohen, c'est impossible de ne pas rire. Cette personne est beaucoup trop drôle. Donc on rate d'ailleurs beaucoup de plans à cause de ça. Benoît Poulvorde, c'est quand même il a ce mélange de douceur, de tendresse et d'immense drôlerie. Il peut nous donner envie de pleurer et de rire en même temps. Et même Damien Bonnard, quand on a fait cette scène où je confonds, il faudrait peut-être pas que je raconte.
Bah si, il y a des jumeaux, de toute façon, on s'attend bien que vous alliez coucher avec l'un puis avec l'autre, en pensant que c'était le premier. ça me paraît évident. C'est pas spoiler le film que de dire ça.
Mais du coup, parce que j'ai quand même eu des partenaires avec qui le rire a été facile, et je pense qu'en plus, pour tourner des scènes comme ça, pour enlever la gêne, le rire est important.
Ça veut dire que quand même, il y avait une idée de gêne au départ?
Il pouvait y avoir
Non, mais quand on ne sait pas avec qui on travaille. Moi, je ne connaissais pas, mis à part Vincent McCain, j'avais jamais travaillé
Vincent
avec
McCain, qui était déjà donc sur Les Innocents. Ouais. Ouais.
Sinon, les autres, je les rencontrais. Donc, on ne sait pas le rapport que chacun a avec ce genre de scène. Parce que quand il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit gêné pour qu'en fait, toute l'équipe soit gênée. Et là, non, en l'occurrence, personne n'était gêné ou le peu de gêne qui a pu exister peut-être à un moment s'est très vite dissipé.
Des scènes physiques, sensuelles, des scènes de danse aussi, notamment une sur une table, très Bardot.
Très Bardot.
Ouais. C'était une des références possibles ?
Ah ben oui, j'avoue que moi-même, je m'étais dit à un moment, allez, je vais lui faire un clin d'œil au moment où elle prend sa robe comme ça, qu'elle frotte contre sa cuisse
et qu'elle se
dénude. Ouais. Non, et Dieu crée la femme. Je dis, c'est le moment où on peut glisser un petit clin d'œil.
Le fait d'avoir fait de la danse, ça aide, d'avoir ce rapport au corps complètement décomplexé et naturel à soi.
Mais je trouve ça particulier parce que j'ai fait de la danse classique. Ouais. Donc c'est pas forcément la danse qui libère le plus. Parce que c'est quand même une danse qui impose d'entrer d'abord dans un carcan de technique pour réussir après à la danser justement. Et donc c'est pas forcément une danse, c'est une danse qui peut faire danser un peu raide les gens quand ils se lâchent. Mais par contre ça aide à avoir une conscience de chaque partie de son corps et de pouvoir s'amuser autant avec une main qu'avec une jambe. On a une conscience de nous, quoi, de nous-mêmes, de notre chair. Et après, c'est surtout du lâcher-prise, parce que moi, je trouve que les gens, parfois, que je vois, que je trouve qu'ils dansent le mieux, c'est des gens qui, sur n'importe quelle musique, en soirée, n'importe où, mais c'est des gens qui osent, qui se lâchent, qui n'ont rien à faire du regard des autres. Et je trouve que ces gens-là dansent extrêmement bien quand on les voit libres.
Luc Bessy, vous êtes un bon danseur ?
Ben, en fait, je rejoins tout simplement ce qu'elle vient de dire, c'est que bon danseur, c'est subjectif. Simplement, il faut danser, quoi. Et pour moi, un bon danseur, c'est celui qui se lâche.
Vous vous lâchez ?
Et oui, et qui s'émancipe des regards des uns et des autres. C'est ça, un bon danseur pour moi.
Alors, Guilbeault, vous êtes une bonne danseuse ?
Je suis une excellente danseuse.
Alors, on va faire l'algorithme avec vous.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais voir Marion.
Vous avez rendez-vous ?
Rendez-vous.
On peut avoir de la musique ?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits, Phil Collins, Kate Jarrett.
Le nouveau rendez-vous.
Vous aimez Mozart ?
Oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Sur France Inter.
L'algorithme musical qui vous est réservé, Lou Delage, Marion Guilbeault.
Alors ne vous inquiétez pas, je le dis à chaque fois, ça ne fait pas mal, Lou Delage. Je pars de ce qu'il y a dans votre ADN musical, ce que vous aimez, ce que vous avez écouté, ce que vous écouterez, et pour vous proposer quelque chose de nouveau à découvrir. Et votre algorithme musical, il commence en 2011, avec un de vos premiers rôles dans un film qui, bien qu'il ne soit pas un biopic, était dédié à cette voix-là.
Une fille aux cheveux blonds, toute nue sur la plage, et le soleil la caressait, le vent lui parlait, un garçon.
Vous avez reconnu cette voix, j'imagine.
C'est Nino Ferrer.
Nino Ferrer, oui. Euretia, c'est la voix dans Nino, une adolescence imaginaire de Nino Ferrer. C'était réalisé par Thomas Bardinet en 2011. Vous y jouiez le rôle de Natacha. Est-ce que vous connaissiez les chansons de Nino Ferrer avant ce film ?
Je connaissais. Après, je ne connaissais pas du tout tout. J'en connaissais certaines, comme ça. Mais il m'a fait découvrir plus de morceaux que je ne connaissais en faisant ce film.
Je disais que c'était pas un biopic, c'est pas une comédie musicale, mais
il est parti de ses morceaux pour lui inventer une vie justement. C'est-à-dire s'il a raconté cette femme-là, Natacha en l'occurrence, comme de cette manière-là, qu'est-ce qu'il a pu vivre ? Et voilà, et il lui a inventé une vie.
Et une comédie musicale, ça pourrait vous tenter ?
Il faudrait que j'apprenne
à chanter. Oh. Et elle n'est pas faite pour ça, elle nous l'a dit
tout
à l'heure.
On va continuer, si.
Non, on lui a dit.
Tout ce qui fait peur donne envie en même temps. Donc,
oui. Dans votre ADN musical, on trouve aussi un peu de Tchaïkovski, un souvenir de Casse-Noisette, j'imagine, ça sent les leçons de danse, vous l'avez dit tout à l'heure, le mercredi, le samedi après-midi, du Gainsbourg, un peu de rock belge avec les excellents Warehouse, une diva canadienne qu'on écoute en cachette, je ne citerai pas de nom, et
non,
la
moi,
musique...
Moi je l'écoute pas du tout en cachette, c'est Céline Dion, c'est ça ?
Bah, non, j'adore. Parce que c'est compliqué, moi aussi j'assume, mais on m'a demandé une chanson honteuse, alors j'ai mis vraiment, deux heures à trouver
qu'on
ma
a
chanson honteuse, et... Mais non, parce que j'ai même pas honte, parce que celle-là, en l'occurrence, Oxygène de Céline Dion, on quand même fait merci pour cette chanson, parce qu'elle fait hurler de rire les gens. Donc c'est quand même extraordinaire de provoquer ça, moi je trouve.
Bien sûr.
C'est incroyable, ses paroles sont incroyables.
Donc merci Céline. Et il y a aussi la musique d'un jeune Français. Comme par hasard, il a grandi au Québec. Il connaît son Americana et sa pop anglaise sur le bout des doigts.
In a magic world, Sarah, been thinking about you. In the static world, Sarah, time is a ruin. And I love a woman with the heart of a boy still. All right.
Vous nous le présentez?
Mais c'est Alyosha Schneider, qui est un ami à moi. J'avais suivi la création de son premier album. Et donc voilà, c'est du coup une musique qui me tient à cœur, parce que j'aime autant la personne que sa musique.
Et vous jouez dans le clip?
Et oui,
de cette chanson, Sarah.
Fait venir.
Vous y jouez de la guitare, sur scène?
Oui, sans bouger la main gauche.
Sans si bouger, j'ai remarqué.
Je suis,
oui, c'est toujours le même accord.
Suis, voilà, j'ai remarqué. D'être,
Je me suis dit, est-ce qu'elle va bouger? Non, elle assume, c'est bien.
Que j'étais partie au Canada faire ça sur deux jours, c'est pas grave, il n'y a pas le temps. Je ne bougerai pas la main gauche, on assume.
Vous allez des fois au concert
d'Alyosha?
Non, deux, en général.
En général, ça m'arrive, mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir un concert. Là, ça fait longtemps. J'ai plus été au théâtre et au cinéma dernièrement. Ouais.
Alors moi, je vais quand même vous encourager à chanter, parce qu'avec la voix que vous avez, ce n'est pas possible
d'en rester là. Je me sers depuis tout à l'heure.
Et votre algorithme, en plus, il a tranché pour une actrice qui, elle, est déjà passée derrière le micro. Elle a sorti deux albums solo, elle a chanté avec Brigitte Fontaine, Brett Anderson de Suède, Bryan Adams, et plus récemment avec nos chouchous, les Liminianas. Elle y a pris goût, puisqu'elle est de retour avec un nouveau projet psyché yéyé appelé L'Épée. Eh bien, je vois que derrière l'épée, vous avez reconnu la voix d'Emmanuel Seigné, le son d'Anton Newcombe, The Brian Johnson Massacre et de The Liminianas, bien sûr. Voilà, c'est un des trois titres enregistrés entre Cabestany, près de Perpignan, et de Berlin. Et c'est à découvrir dès le 17 mai, avant un album annoncé pour l'été, et peut-être un live dans le NRV. Ça vous plaît?
Oui, moi j'aime beaucoup la musique d'Emmanuel Seigné, même ses albums précédents
avec Ultra Orange.
Et puis j'aime beaucoup qu'elle ose, surtout, aller faire ça. Allez chanter.
Allez, c'est à vous maintenant.
On verra.
Rendez-vous.
Vous restez avec nous, Lou Delage. Donc, sortie du film Blanche comme neige, c'est demain. Mais tout de suite, on part en live avec Blic Bassi. Deuxième session, Marion Guilbeault.
Deuxième session, il reprend son bébé guitare rose, Blic Bassi, pour un autre titre de cet album 1958. C'est le titre qui ouvre l'album N'Gwa, Blic Bassi en live dans le NRV. Bye, yes, you're so young.
in the land when we've been in jail for always.
Complètement bluffant, ouais. Blic Bassi dans le NRV.
La lui, il joue avec la main gauche, contrairement à vous, ah, de la jeune.
Ouais, on va terrible. Lui demander quelques, le temps de dire que c'est Julien Dumont, Nicolas Cazot, Fabrice Desmaz à la technique, à la prise de son et à la vidéo, parce qu'il faut vraiment aller voir les deux vidéos de Blic Bassi. C'était Benoît Massir. C'est quoi ce jeu de guitare? Parce que moi, je connaissais le picking, je connaissais les arpèges, je connaissais tout ça, mais alors là, le tapotement sur les cordes, c'est vous qui avez inventé ça? Qu'est-ce que ça vous permet?
Ben en fait, je cherche juste à avoir des. À utiliser mon instrument d'une manière qui me convienne, quoi. C'est-à-dire lorsque j'ai besoin de m'accompagner avec une rythmique, en même temps une harmonie. Le fait de taper m'apporte la rythmique et en même temps une harmonie qui me permet tout simplement de chanter. Ouais.
De quoi parle la chanson?
La chanson, c'est le titre qui ouvre l'album, ouais. Et qui est consacré à Oumiobe, que j'appelle Ongwa, c'est-à-dire mon ami en langue bassa. Et je lui dis, toi qui as décidé de te sacrifier pour que nous puissions être debout aujourd'hui, tu es mon ami.
Dans les années 50, ouais, au
Cameroun. Absolument.
Ouais.
Toi qui as décidé de te battre pour l'indépendance de mon pays, tu es mon ami, tu es mon frère. Toi qui as accepté de ne pas voir tes arrière-petits-enfants, sachant que lorsqu'on a décidé de te pourchasser, de te tuer, tu as accepté parce que tu voulais une indépendance totale et pas partielle. Tu es mon ami.
Qui vous a raconté l'histoire de cet indépendantiste avant l'heure?
Mais en fait, j'ai rencontré cette histoire de plusieurs manières. La première fois, c'était ma mère qui nous racontait des contes tous les jours par rapport à une actualité de la maison. C'est-à-dire parfois, le gamin a 3-4 ans, on voulait pas dormir et pourtant on somnolait. À chaque fois, elle nous demandait d'aller dormir. On disait, non, j'ai pas sommeil, parce qu'on voulait écouter ce que les grandes personnes se disaient. Et à chaque fois, elle nous racontait un conte qui nous faisait peur et qui nous amenait, qui nous obligeait à aller dormir. Un jour, elle nous a raconté qu'elle avait passé un an et demi avec mon grand-père dans la forêt, dormant d'un lieu à un autre, parce que on pourchassait les maquisards. En fait, on appelait des maquisards ceux qui se battaient avec Oumiobe. Et il se trouve que le village d'Oumiobe était voisin du village de ma mère et de mon grand-père. Et donc, mon grand-père, lorsqu'il était, pendant cette période, a fui avec sa famille parce qu'on torturait ceux qui savaient où se cachaient les maquisards. Et la deuxième fois, j'ai rencontré cette histoire à l'école où on nous enseignait que, en fait, Oumiobe était un terroriste, puisque les livres étaient écrits par la France. Et donc, chez nous, à l'école, c'était enseigné que les maquisards étaient terroristes. Pourtant, au village d'où je viens, tous les gens
porter cette histoire et se réclamait de l'UPC qui était le parti de Oumyobek, l'Union des Populations du Cameroun. Et donc je trouvais ça très bizarre qu'à l'école qu'on dise que c'est un maquisard et que dans les villages, les gens racontent cette histoire, mais pas de manière officielle parce qu'on sentait encore qu'il y avait une peur. Et la quatrième, la troisième fois où je rencontre cette histoire, c'est vraiment lorsque je vis ma crise identitaire et je me dis il faut que j'aille chercher et je pars dans des conséquences pour suivre le fil rouge qui me ramène vers l'origine et l'origine me fait m'arrêter chez Oumyobé et Wandie Moumié, tous ces gens-là qui se battaient pour la libération du Cameroun.
Quel a été l'élément déclencheur de cette crise identitaire, Blik Bassi?
C'est tout simplement le chaos qui règne dans nos différents pays. Hein. C'est-à-dire, on voit bien, moi je me dis 60 ans après l'indépendance ou la pseudo-indépendance, que les gens soient complètement, que nos pays soient encore dans ces conditions aujourd'hui, et que nous soyons, que ce soit unanimement dit que l'Afrique est le continent le plus riche, et on se retrouve encore aujourd'hui à vivre avec des gens qui n'ont même pas de quoi boire de l'eau potable et tout. Ça veut dire qu'en fait, tout cela m'a interpellé, et je me suis dit, il y a un problème. Et petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions, de me dire, par exemple, le modèle éducatif ne correspond peut-être pas à celui que nous devons avoir, le modèle politique, le modèle économique, et que malheureusement, nous essayons de construire quelque chose, une structure étrangère qui nous a été laissée, et à travers laquelle, de toute manière, nous ne pourrons jamais rien faire, parce qu'elle n'est pas connectée aux racines, et tant que nous n'avons pas une connexion réelle avec ce que nous sommes réellement, c'est très compliqué d'avancer.
Et alors, quelle dimension musicale fallait-il donner à cette prise de conscience ?
En fait, en reparlant de Oumyobé, pour moi, c'était une manière, tout simplement, d'essayer de sonner de tirer la sonnette d'alarme pour essayer de, au moins faire un bilan, de se dire, après l'indépendance, où est-ce que nous en sommes? Juste qu'on s'arrête, qu'on se dise, nous avons pris tel chemin, est-ce qu'il correspond juste tout simplement à l'écosystème? Parce que chaque écosystème nous impose une manière d'être. C'est-à-dire, on a les cheveux crépus parce qu'il fait très chaud et que ça nous protège du soleil. Pareil pour la mélanine, ainsi de suite. Donc, on voit bien que l'écosystème nous impose une manière d'être et qu'on s'arrête et qu'on se pose des questions. Et donc, en ramenant cette histoire, pour moi, il était aussi question tout simplement d'essayer de parler, parce qu'il faut, dire qu'aujourd'hui encore, les gens ont peur de parler de cette histoire, parce qu'après l'indépendance, tout cela qui était lié de près ou de loin ont disparu. Donc, mon grand-père, il y a 3-4 ans, quand il me parlait de cette histoire, il chuchotait, il avait peur qu'on vienne l'arrêter puisque c'est hyper récent. Donc, officiellement, c'est une histoire dont on ne parlait pas encore vraiment, quoi. Et donc, moi, j'ai voulu, en consacrant un album, c'était d'essayer de ramener cette histoire de manière officielle et populaire sur la table.
Est-ce que vous avez réécouté pour cet album des musiques qui se faisaient à ce moment-là, dans les années 50?
Oui, bien sûr. J'ai écouté des titres de Medjo Mesom Jacob, qui était un vieux chanteur camerounais. J'ai écouté des choses, par exemple, Indépendance Tcha-Tcha, qui était un peu la chanson officielle qui... Ouais. Annoncer l'indépendance de ces différents pays. Je suis allé réécouter pas mal de vieilles chansons de Bikuti et d'Assiko. Et oui, j'ai voulu, en voulant me plonger dans cette histoire, bien sûr, automatiquement, repart écouter et s'accompagner de musique également.
Tout à l'heure, je disais que c'était un disque africain sans batterie, sans percussion. Qu'est-ce qui a motivé cette prise de décision de vous passer de ces instruments?
En fait, pour moi, cet album, comme l'album précédent, est tout simplement reflète tout simplement ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, j'essaye tout simplement de m'émanciper un peu du standard préétabli par nos différentes sociétés, de me dire que la rythmique, par exemple, peut être apportée par un instrument ou par une langue. Hein, c'est-à-dire, la rythmique n'est pas forcément apportée par une batterie ou par une percussion. Et ça participe vraiment, tout simplement, c'est un peu le reflet de la démarche qui est la mienne aujourd'hui, d'essayer vraiment à chaque fois d'apporter une perspective qui soit la mienne et qui ne soit pas forcément celle préétablie et décidée par la société.
Mais du coup, vous chantez en langue bassa, c'est votre langue maternelle. On sait, il y a
270 langues
au Cameroun, ouais. Juste au Cameroun. Alors comment on fait langue commune quand il y a 260 langues et il y a combien de millions d'habitants au Cameroun?
Il y a 22 millions.
22 millions, comment on peut faire langue commune?
Mais en fait, ce qui se passait avant que les langues officielles qui sont le français et l'anglais, parce que nous avons un côté francophone et un côté anglophone, avant que ces langues n'arrivent, les gens parlaient dans les différentes tribus, chacun parlait sa langue et les gens se comprenaient. Et donc, c'est vraiment ce qui se passait. Et malheureusement, aujourd'hui...
Il y a un tronc commun, peut-être.
Absolument. Et aujourd'hui, tout ça a disparu parce que la langue officielle, c'est le français et l'anglais. Et malheureusement, la majeure partie des langues sont en train de disparaître. Et l'une des raisons pour lesquelles je chante exclusivement en bassa, c'est aussi pour essayer de sensibiliser pour que les langues les plus importantes puissent être enseignées. Parce qu'on sait bien que derrière la langue, c'est le lien qui nous mène à notre tradition et à ce qu'on est réellement.
Il y a une chanson en anglais?
C'est vrai que nous parlons anglais aussi chez nous.
Il y a une chanson en anglais, oui, aussi.
En fait, il y a des mots en anglais. Ouais. Mais la chanson, elle est, en fait, il y a un petit refrain en anglais, mais les mots sont majoritairement en français. En fait, ce que j'essaie de faire aussi, c'est utiliser ce qu'on appelle au Cameroun le camfranglais. Le camfranglais, c'est vraiment un mélange du français et d'anglais, et puis des mots différents mots qui proviennent des différentes langues du Cameroun. Et c'est cette langue-là, en fait, qui est parlée par la plupart des gens de ma génération.
Si vous écriviez en français, vous auriez le sentiment de capituler ?
Pas du tout, puisque j'ai publié un roman en français.
Ben, je sais. Il y a donc, eu un grand prix, d'ailleurs.
Voilà. Donc, le français, c'est ma deuxième langue.
Et c'est la langue de la littérature, alors ?
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, si j'ai envie de parler au Camerounais, au Gabonais, au Centrafricain, au Béninois, je suis obligé de parler en français. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important aussi, moi, en faisant cet album, de rappeler le fait que la France et nous, et le Cameroun, et le Gabon, et le Congo, portons une histoire commune. Parce que la francophonie, dans les 30 prochaines années, sera 95% africaine. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il est super important que nous puissions, que par exemple, cette période coloniale puisse être aujourd'hui, en France, être enseigné et qu'on puisse parler de ces zones sombres. Je sais que, comme toute nation, la France est complètement plus concentrée à écrire son beau storytelling, parce que c'est aussi lui qui galvanise.
Mais quand même, dans les jeunes générations, il y a une prise de conscience. Quand même, il y a des études qui sont menées pour,
oui,
quand même sur le post-colonialisme. Il y a prise de conscience.
Ouais, mais pas tant que ça.
Ah non, pas tant que ça. Je peux
parce que on en est au début, on va dire.
Ouais, parce que les gens ont d'autres problèmes qui sont plus urgents, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, en général, on cherche à régler le plus urgent avant de venir à ce genre de choses. Et donc, les gens sont encore dans le plus urgent aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important, oui, que parce que nous portons une histoire commune, que ces histoires puissent être parlées, parce que, notamment au Cameroun, nos dirigeants attendaient que ce soit fait par la France. Parce que lorsque François Hollande était au Cameroun dernièrement, il a parlé légèrement de cette histoire. Et c'est là où nos gouvernements ont commencé aussi à parler de ça. Parce qu'ils n'osaient pas, pour ne pas froisser la France. Donc, on attend encore l'autorisation aujourd'hui de parler des histoires qui sont des histoires qui lient nos différents pays, qui ont été des histoires très graves, parce que il y a encore des gens qui vivent aujourd'hui, qui ont connu ces histoires, qui ont connu cette période très très dure. Et malheureusement, nous continuons à malheureusement, le gouvernement actuel qui est cohérent continue à cacher, parce qu'en fait, le gouvernement aujourd'hui qui est au Cameroun est le groupe qui a été créé par la France pour combattre le groupe de Oumiobé.
Qui a été assassiné par des militaires français.
Absolument, le 13 septembre 1958. Et ce groupe qui avait été créé par la France, lui demandait l'indépendance partielle. C'est-à-dire, comment on peut demander une indépendance partielle? Ça veut dire 50% indépendant et l'autre...
l'autre est partiel.
Je le suis pas trop.
Ruben Niobe avait toujours son sac Mbog, dans lequel on met des écorces et des choses qui permettent de survivre face à l'adversité. Il y a quoi dans le vôtre, Luc Bassi?
Dans le mien, il y a quelques petites choses, quelques petites écorces qui permettent de simplement à chaque scène, à chaque lieu où je vais, essayer de distiller de l'amour, parce que je pense que nous sommes faits de ça, que nous le voulions ou non, que nous soyons contents, heureux, qu'on ait un problème de maladie ou d'argent et tout. L'amour est en chacun d'entre nous, et malheureusement, nous ne le faisons pas vivre. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire avec mon sac, c'est que partout où j'arrive, j'essaye tout simplement de jeter cette espèce de magie pour qu'elle aille déclencher, créer une dynamique en cet amour qui vient à chacun de nous, pour que les gens puissent aussi le dégager comme un wifi et qu'on se connecte les uns les autres.
Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez 21 frères et sœurs, c'est ça que vous étiez?
Oui.
Il y a des artistes dans cette famille ou il n'y a que vous?
Ma mère chantait beaucoup et je pense que tout est parti d'elle, parce que toutes mes sœurs de la même maman, parce que mon père avait trois femmes, toutes les sœurs de la même maman chantaient également, mais pas de manière officielle, mais elles sont de bonnes chanteuses.
Quel était le répertoire de votre maman?
Elle chantait en général, elle créait toujours des chansons.
Elle créait des chansons?
Oui, oui. Ah ouais. C'est-à-dire à chaque événement, elle faisait chaque événement en musique. Quand elle cuisinait, quand elle se sentait mal, quand elle avait des problèmes avec mon père, c'était vraiment en chanson. Et je pense qu'on est encore quand même dans notre société, la musique est hyper présente. C'est-à-dire pendant les deuils, par exemple, les lamentations pour beaucoup de tribus, c'est pas en pleurs, c'est en chant, c'est à travers des chants. Et donc, pareil pour les chants, pareil pour différents événements, la musique est vraiment très, très, très présente dans nos communautés, quoi.
Moi, juste par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui, qui est très très branchée, téléphone portable, les jeunes écoutent toute la musique occidentale, bien sûr, sur leur téléphone portable. Il y a beaucoup de rap africain qui se développe. Vous regardez ça comment, vous ? Vous avez l'impression que c'est une capitulation de l'identité africaine par rapport à la musique occidentale ? Vous pensez qu'il y a quelque chose avec lequel l'Afrique peut faire affaire dans le rap ?
Oui, en fait, moi, j'ai un label au Cameroun et je produis des rappeurs aussi. Et donc, je pense que le rap a apporté quelque chose de très fort, parce que au Cameroun, les politiques ne considéraient les artistes comme des gens, en fait, comme des clochards, quoi, comme des gens qui ne valent pas grand chose. Et le fait que les artistes de musique urbaine arrivent grâce aux outils de nouvelles technologies et Internet apporte une vraie dynamique qui impose, parce qu'ils sont suivis par des jeunes qui ont chacun un smartphone. Donc du coup, les politiques ont commencé à écouter les artistes grâce à cette dynamique. Mais c'est cette dynamique aussi qui est partie du Nigeria, qui a permis aux gens aujourd'hui de pouvoir s'assumer. C'est-à-dire, pendant pas mal d'années, les artistes dans la majeure partie des pays africains faisaient des clips à l'américaine avec des filles sur des grosses voitures et tout, des piscines, etc. Et les Nigériens sont arrivés, ils ont commencé à tout simplement à faire des clips où ils s'assumaient, où ils racontaient leur histoire à travers leur tradition. Et ça a complètement changé aujourd'hui, au point aujourd'hui, quand on regarde la majeure partie de ces clips, en fait, on ressent les gens qui commencent tout simplement à assumer leur identité. Et donc, oui, ça participe tout simplement à l'émancipation des citoyens. Et je pense que utiliser à bon escient, comme toute chose, hein, le rap va contribuer non seulement économiquement, mais également à changer, à créer un véritable modèle économique, non seulement à travers la partie de la musique, mais aussi à travers différentes industries culturelles et créatives.
Émancipation aurait été le mot qui vous a lié tous les deux, Lou Delage et Bli Bassi. Merci à vous deux. Quelques dates de concert, Marion ?
Pour Bli Bassi, ce sera Ce Nom le 11 avril et La Cigale à Paris le 15 avril.
Le NRV première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes. Ce sera après le journal et ce sera avec ça. Vous connaissez ce générique ?
Oui, je pense que même si on regarde pas, on est obligé de connaître.
C'est...
Elle a l'air désespérée quand elle dit ça. Non.
On en entend tellement parler qu'on est obligé de savoir ce que c'est, même si on n'a jamais regardé cette
série. Et c'est quoi ?
Et c'est Game of Thrones.
Et bien c'est elle qui l'a dit. Le rendez-vous est pris. À tout de suite.